La nouvelle que publie Je sais tout s'intitule « L'arrestation d'Arsène Lupin ». Or, en ce début du XXe siècle, on se passionne pour les récits à énigmes. 40 ans auparavant, Émile Gaboriau a fait recette avec les enquêtes de son inspecteur Lecoq. Edgar Allan Poe a créé son détective amateur Le Chevalier Dupin. Et de 1887 à 1927, l'ombre de Sherlock Holmes rayonne sur le monde, une loupe à la main et ses déductions à l'esprit. La presse quotidienne déverse des litres d'hémoglobine qui ravissent un public avide de crimes macabres et de meurtres spectaculaires. Ce genre de faits divers fait frémir les lecteurs. Un tel enthousiasme n'a pas échappé à un certain Pierre Lafitte. Cet ancien journaliste sportif, grand amateur de cyclisme, se consacre au lancement de divers magazines. Lafitte, qui a 33 ans, sent d'où souffle le vent. Il perçoit très vite l'intérêt commercial de ce type de publication. Il a créé un petit empire de presse qui va satisfaire les attentes du public et promouvoir les activités à la mode. D'abord, il a lancé une revue illustrée consacrée au sport. Ensuite, Fémina, la revue idéale de la femme et de la jeune fille. Puis, Fermé Château, un magazine de country life à la française. Il enchaîne avec des périodiques pour les jeunes. Puis, pense à une publication encyclopédique, mais de la vie moderne. Et ce sera Je sais tout. Il lui faut dès lors des sujets branchés. Il veut des articles sur l'élégance, les arts, les loisirs sportifs, les personnalités du moment, les stars de l'actualité. C'est déjà toute une époque nouvelle qui se dessine. Une toute autre conception du journalisme et de la presse. D'autant que Lafitte veut aussi introduire des textes littéraires. Mais attention, il lui faut des courts récits originaux. Courts car il aime ce qui va vite. Les sports, l'automobile, la réussite. Il pense immédiatement à Maurice Leblanc, qu'il a rencontré dans un club cycliste et avec lequel il a noué de solides liens d'amitié. Ah, il sait qu'il a un joli brin de plume, qu'il a écrit dans Gil Blas, qu'il s'essaie à la littérature sérieuse, mais qui, comme il l'avoue, demeure enfermé dans un cercle de romans de mœurs et d'aventures sentimentales. C'est donc à ce Normand qu'il fait appel pour lui écrire des nouvelles. Mais des nouvelles qui passionneront le public, précise Lafitte. Et il continue. Vous savez, mon cher Leblanc, il faut de l'aventure, un peu de suspense, un héros sympathique, de la romance, pourquoi pas, et aussi une pincée de mystère. Les gens adorent ça, à commencer par mon public. Maurice Leblanc est un peu décontenancé. Mais il s'attelle à la tâche, faisant confiance à son imagination débordante. Ainsi apparaît pour la première fois notre héros, le bel Arsène, Arsène le mondain, l'escroc, le séducteur. Arsène qui déboule dans la littérature populaire avec l'étiquette définitive de gentleman cambrioleur. Et immédiatement, ce sera une réussite. Il suffit pour le comprendre de relire la première aventure que rédige Leblanc. Il a compris l'attente de Lafitte. Il a du talent et une rare habileté. La première apparition de Lupin a pour cadre un transatlantique luxueux qui vogue vers New York. Une société choisie y noue des relations mondaines et se divertit d'une manière exquise. Le deuxième jour de la traversée, le télégraphe sans fil avertit le commandant qu'Arsène Lupin, notoire et redoutable cambrioleur, est à bord sous le nom d'emprunt de R. Mais brusquement, le message s'interrompt. Un violent orage a rompu les ondes électriques. Qui est ce R derrière lequel se cache le voleur? La suspicion, puis la panique envahissent les passagers. Une lady se fait voler une partie de ses bijoux, ce qui n'empêche pas un certain monsieur d'Andrézy de s'amouracher d'une jolie Miss Nelly. Ce d'Andrézy est le narrateur de l'histoire. Mais ce d'Andrézy n'est autre qu'Arsène Lupin. Lupin qui voyage sous ce patronyme, Lupin, qui à l'arrivée à New York est arrêté par son implacable ennemi, l'inspecteur français Ganimard. Ce qui accroche les lecteurs, c'est la belle littérature qui évoque d'abord l'enchantement d'une telle croisière. C'est surtout une surprise de taille. Le narrateur de l'histoire n'est autre que le coupable. On prétendra plus tard que c'est Agatha Christie qui a inventé cette astuce pour le crime de Roger Ackroyd. Erreur. En 1905, la reine du polar anglais n'avait que 14 ans. Autre atout. D'emblée, Lupin attire la sympathie. Sa manière d'agir est teintée d'humour. Cambrioleur, certes, mais d'abord dilettante. Lupin se divertit de la pièce qu'il fait jouer. Lupin vole par goût, par vocation, mais également par amusement. Rien n'est sombre ni dramatique. Le récit reste léger. Lupin est un filou, un artiste en son genre. Dès la première apparition du héros, nous apprenons beaucoup à son sujet. En moins de 15 pages, le romancier le construit, l'habille, l'individualise. On sait qu'il marivaude tout en restant homme du monde. On apprend qu'il use de 1000 déguisements, tour à tour chauffeur, ténor, bookmaker, vieillard, commis voyageur marseillais, médecin russe ou torero espagnol. Les policiers qu'il traque ne l'ont d'ailleurs jamais vu que grimé et déguisé. On voit bien entendu Lupin s'enflammer pour une jolie femme et poser, comme il le dit, sa candidature de flirt. Élégance, élégance. Élégance aussi quand il fait main basse sur des bijoux. Il ne les vole pas, il les choisit. Élégance aussi quand il s'adresse à Ganimard, venu l'arrêter à sa descente du paquebot. Oh, dommage tout de même de ne pas être un honnête homme. On comprend que les lecteurs et les lectrices de Je sais tout adorent et adoptent immédiatement Lupin. Des milliers de lettres arrivent à la rédaction du mensuel. Le public veut une suite dans les plus brefs délais. Que vont faire Lafitte et surtout Maurice Leblanc, hein ? Lafitte se frotte les mains, se réjouit de son choix. À 41 ans, Maurice Leblanc est grisé par le succès. Il n'a jamais connu ça. Lafitte veut le remettre au travail, oui, mais... Oui, il y a deux problèmes. D'abord, l'auteur rechigne. Ah oui, il ne veut pas continuer, il refuse de devenir un auteur étiqueté écrivaillon populaire. Le genre mystère et policier est mal considéré dans les milieux littéraires. Ce qu'il veut être, c'est, comme il le dit à Lafitte, un romancier de la vie délicate des âmes. Lafitte s'esclave. Et ça a du succès, ça, la vie délicate des âmes ? Demande-t-il à Leblanc. Ce dernier réfléchit et doit reconnaître que non. Bon, admettons, dit l'auteur, qui demande à réfléchir. Le second problème est de taille, et Leblanc s'en ouvre à Lafitte, comme il le racontera plus tard. Je lui fis remarquer qu'à la fin de ma nouvelle, j'avais coupé court à tout développement ultérieur en fourrant mon héros en prison. Eh oui, en effet, comment voulez-vous donner une suite à la carrière d'un malfrat quand son créateur vient déjà de le faire arrêter et emprisonner. Leblanc est coincé dans une impasse d'écriture. Ce genre d'obstacle n'arrête pas le directeur de « Je sais tout ». Lafitte le regarde tranquillement et lui donne la solution. Eh bien, qu'à cela ne tienne, qu'il s'évade. Il y aura donc un deuxième conte, Arsène Lupin en prison, puis un troisième, l'évasion d'Arsène Lupin. Leblanc imagine que Lupin continue de sa cellule de la santé à diriger ses opérations et ses fric-fracs. Puis qu'il s'évade au nez et à la barbe du directeur et des gardiens. Mais Leblanc se demande, avant de rendre sa copie à Lafitte, si cela est bien imaginable. J'eus la conscience d'aller consulter le chef de la sûreté. Il me reçut très aimablement et s'offrit à revoir mon manuscrit. Mais il me le renvoya au bout de 8 jours avec sa carte et sans un commentaire. Il avait dû trouver cette évasion complètement impossible, explique Leblanc. Lafitte ne sera pas du même avis, et les lecteurs non plus. Tout le monde est ravi, nous le sommes aussi, encore aujourd'hui. Dès décembre de cette même année 1905, Lupin fait son retour dans les pages de Je sais tout. Habile, Lafitte soigne sa promotion en écrivant avec beaucoup de malice. Nos lecteurs connaissent déjà Arsène Lupin puisqu'ils ont déjà assisté à l'arrestation du génial escroc. La carrière d'Arsène Lupin est loin d'avoir été terminée par cet incident, ainsi qu'on va le voir par la suite, ininterrompue de prouesses inouïes dont Je sais tout réserve la sensationnelle révélation à ses lecteurs et qui font d'Arsène Lupin le type désormais légendaire du grand voleur, le modèle incontesté du genre. Ah, Lafitte a décidément beaucoup d'intuition. Et le succès ira croissant, lui permettant de faire paraître ce premier cycle d'aventures en volume dès 1907 sous le titre « Arsène Lupin, gentleman cambrioleur ». Au fil de la sortie des romans, le personnage va s'étoffer. Sa carrière va évoluer et monter en puissance pendant 34 années de publication. De 1907 à 1941. Avouez que cela aurait été dommage que Lupin n'ait pas pris vie dans la littérature. Pourtant, vous venez de l'entendre, il a été à deux doigts de ne jamais exister. Mais d'abord, qui est ce Maurice Leblanc qui reste peu connu, moins en tout cas que son personnage fétiche ? C'est d'abord un pur Normand, né à Rouen le 11 décembre 1864. Son lien avec le grand écrivain rouennais que fut Gustave Flaubert commence le jour de sa naissance. C'est en effet le propre frère du romancier qui le met au monde. Ce frère qui a poursuivi la même carrière que son père, grand chirurgien à l'Hôtel Dieu de Rouen et professeur de médecine dans sa ville. Ainsi, l'ombre du grand Flaubert plane sur la tête du petit Maurice dès les premières minutes de sa vie. Et nous verrons que cela va le marquer. Milieu social aisé, famille aimante, un père négociant au charbon, Rouen étant un port prospère, une mère appartenant à une riche famille de filateurs. Georgette, la seconde fille du couple, aura elle aussi un destin célèbre. Très belle, opulente comme l'époque le voulait, elle embrassera une grande carrière de cantatrice et de comédienne. Bien que mariée, elle embrassera aussi notre écrivain national, Maurice Maeterlinck, en devenant sa maîtresse à partir de 1895, et ce, pendant une vingtaine d'années. Le futur créateur de Lupin, lui, entreprend des études orientées vers la littérature. Humanité, baccalauréat et lettres, on le devine. Premier prix d'analyse littéraire, stagiaire à la Société des auteurs, auteur de pièces de théâtre sans grand succès, il commence à écrire des contes et même quelques romans qui resteront discrets. Mais il a une plume dans le sang. Il admire Maupassant. Il fréquente deux écrivains rouennais qui vont lui communiquer leur admiration pour le mouvement libertaire et anarchiste. Retenons ce détail. Il aura de l'importance dans la création de Lupin. En 1889, Maurice fait un beau mariage avec une divorcée, Marie Lalanne, dont il se séparera 6 ans plus tard. Les amours de Maurice sont aussi multiples que les histoires de cœur et de corps de Lupin. Dans sa biographie, on ne cesse de découvrir des photos où les deux passions de Leblanc cohabitent voluptueusement. On y voit des voitures de luxe, style de Dion Bouton, et notre écrivain entouré de jolies et jeunes femmes. Elle sourit sous leur délicate ombrelle et semble moins farouche que les jeunes filles en fleurs de Marcel Proust. Outre l'écriture et la jante féminine, Maurice se passionne aussi pour la bicyclette. Il en fait partout, en Provence et bien sûr dans sa Normandie natale. C'est ainsi qu'il parcourt, parfois avec sa sœur Georgette, tous les chemins secrets du pays de Caux, son pays qui deviendra celui de Lupin plus tard, dans le triangle Dieppe, Rouen, Le Havre. De plus, il adhère à l'Artistic Cycle Club. C'est là qu'il fera la connaissance du journaliste Pierre Lafitte. Rencontre décisive pour lui, pour nous et pour Lupin. Fait chevalier de la Légion d'honneur suite au succès de son Lupin, Leblanc va connaître une vie fortunée. On va le voir au casino et sur la plage mondaine d'Étretat, sur la Côte d'Azur, dans les palaces, en compagnie de jolies inconnues. Son Lupin monte sur les planches et le théâtre s'empare du personnage. La saga Lupin est un immense succès de librairie, comme elle est encore aujourd'hui. À l'époque, les sorties s'enchaînent. Arsène Lupin contre Herlock Sholmès, en 1908. L'Aiguille Creuse, la plus célèbre, en 1909. 813, en 1910. L'inquiétant Bouchon de Cristal, en 1912. Après la Grande Guerre et suite à celle-ci, le ton va se modifier, s'assombrir, avec L'île aux 30 cercueils de 1919 et surtout avec Les effrayantes Dents du Tigre, sorties en 1921. Mais le chef-d'œuvre ne paraîtra que 3 ans plus tard avec La maturité. Ce sera La comtesse de Cagliostro. À la lecture de cet ouvrage, on comprend que le portrait que chacun se fait du personnage est bien éloigné du modèle original inventé par Maurice Leblanc. Mais alors, qui est le vrai Lupin? Il nous faut nous méfier des archétypes. Méfions-nous aussi de l'avis des spécialistes intellectuels, des analystes littéraires qui ne font que réinterpréter le mythe. S'il est une personne à qui poser cette question en toute confiance, eh bien, c'est l'auteur. Maurice Leblanc lui-même. Dans un article qu'il publiera le 11 novembre 1933, Leblanc s'explique. « J'ai dû faire d'Arsène Lupin un héros double, à la fois un bandit et un garçon sympathique. Il fallait donc ajouter à mon récit un élément humain pour faire accepter ces cambriolages comme des choses très pardonnables, sinon toute naturelle. D'abord, il vole beaucoup plus par plaisir que par avidité. Ensuite, il ne dépouille jamais des gens sympathiques. Il se montre même parfois très généreux. Les entraînements sentimentaux lui donnent l'occasion de faire preuve de bravoure, de dévouement et d'esprit chevaleresque. Des événements lui tombent dessus, dont il doit sortir avec honneur, c'est-à-dire un peu plus riche qu'avant. Il se jette dans des aventures pour découvrir la vérité. Seulement, cette vérité, il l'empoche. Voilà l'enjeu. En découvrant la solution de ses enquêtes, Lupin se remplit les poches. Il est une autre dualité chez Lupin. Au fil des divers romans, il est soit bandit, soit détective. Détective, il mène l'enquête et le lecteur progresse avec lui. Malfrat, le lecteur connaît déjà le coupable, puisque c'est justement lui, Lupin. Cette double personnalité, Leblanc l'a voulu pour son héros. Et ici, Leblanc était un peu Lupin. Le romancier aurait-il eu une double nature? Cela se vérifie quand on aborde une autre facette de sa créature, les motivations anarchistes de Lupin. L'écrivain, beau être né et élevé dans un milieu fortuné et très bourgeois, ses parents, bien nantis, ont beau posséder un caveau familial présomptueux au cimetière de Rouen, le jeune Leblanc a des tentations anarchistes. Nous l'avons vu fréquenter des amis écrivains de sa ville qui l'ont initié à la révolte libertaire. Mais il est une inspiration qu'on oublie à propos de sa conception de Lupin. On se souvient que Laffitte le sollicite au début de l'année 1905. L'écrivain hésite, puis à la mi-juillet, paraît la première aventure d'Arsène Lupin. Que s'est-il passé entre ces deux dates? Nous le savons, il a assisté à un procès célèbre aux Assises de la Somme à Amiens. Le 8 mars 1905 débute le procès de Jacob et de sa bande. Leblanc est dans la salle, on en a le témoignage. Qui est au banc des accusés? Alexandre Marius Jacob, un anarchiste doublé d'un cambrioleur de grande envergure. Pendant 4 ans, lui et ses 2 lieutenants ont cambriolé des châteaux, des villas, des musées, des églises, dans la France entière. Jacob commandait une équipe de plus de 40 complices. La police a retrouvé chez les malfrats des outils d'une perfection nouvelle. Jacob comparaissait pour plus de 150 cambriolages. Mais ce qui frappe le public, et sûrement Leblanc, l'écrivain, c'est que Jacob apparaît surtout comme un anarchiste militant. Aux assises, il revendique toutes ses actions comme une lutte contre la société, la richesse et la classe possédante. Il lit même une déclaration dans ce sens. « J'ai mis à nu toute mon existence de lutte. Je la soumets comme un problème à vos intelligences. Ne reconnaissant à personne le droit de me juger, je n'implore ni pardon ni indulgence. Je ne sollicite pas ceux que je hais et que je méprise. » Tout ce qu'a entendu le romancier dans cette salle de tribunal va lui servir pour imaginer des aspects de son Lupin. Tout ce qui touche à Jacob va habiller Lupin, va le rendre vivant, en phase avec son époque. La cambriole, les châteaux et villas dévalisés, une bande importante à son service, des lieutenants, des moyens modernes, le refus d'être jugé et des intentions de revanche contre la société. Au sortir des assises à Amiens, Leblanc est rassuré. Il peut accepter la proposition de Lafitte. Il a déjà le double aspect de son héros. La déclaration que Jacob a lue à son procès a dû lui rappeler mot pour mot les théories des grands anarchistes qui l'avaient précédé, les poseurs de bombes qui voulaient une déflagration de la société, les fameux lanceurs de machines infernales qu'avaient été, à la fin du siècle précédent, les Ravachol, les Vaillant, les Émile Henry, redoutables, et tous anarchistes. Mais Lupin va nourrir en lui d'autres natures secrètes.